Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 10 octobre 2023. En direct de Washington, Idrissa Seludia. Pour commencer, les titres. Le Hamas menace d'exécuter des otages israéliens en réaction aux frappes sur Gaza. Les opérations pour le retrait des soldats français du Niger commenceront ce mardi, annoncent les militaires au pouvoir à Niamey. Au Mali, la junte compte contrôler le camp de l'ONU à Kidal en novembre. En RDC, les combats s'intensifient dans l'Est où l'armée se redéploie dans des zones qu'elle avait quittées en début d'année. Au Kenya, un tribunal suspend le projet d'envoi de policiers kenyans en Haïti pour l'ONU. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Le Hamas a donc menacé hier soir d'exécuter des otages israéliens en réaction aux frappes israéliennes qui se multiplient sur la bande de Gaza au troisième jour de l'offensive massive déclenchée par le mouvement islamiste palestinien qui a fait plus de 1600 morts de part et d'autre. Plus de 100 personnes ont été enlevées en Israël par le Hamas, selon le gouvernement. Le conflit continue de susciter de nombreuses réactions à travers le monde. John Linden.
Chaque fois que notre peuple sera pris pour cible sans avertissement, cela entraînera l'exécution d'un des otages civils mis en garde le Hamas. Cette menace intervient après le siège total imposé lundi par Israël à la bande de Gaza, contrôlée depuis 2007 par le Hamas. Selon l'armée israélienne, plus de 900 Israéliens ont été tués depuis le début de l'offensive samedi. L'on parle également de 2616 blessés. Côté palestinien, les autorités locales évoquent 697 personnes tuées et 3727 blessées. Interrogé sur la situation à Gaza, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, a déclaré que l'État hébreu avait le droit de se défendre. Les États-Unis ont perdu au moins 11 de leurs ressortissants dans l'attaque du Hamas. Pour la seconde journée consécutive, ambiance lourde lundi à New York, divisée entre un rassemblement pro-palestinien de colère contre Israël et une prière juive en mémoire des centaines de civils tués depuis samedi par le mouvement islamiste Hamas. En Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman a déclaré dans une conversation avec le président palestinien Mahmoud Abbas qu'il travaillait à empêcher une expansion du conflit. L'attaque du Hamas a été condamnée par de nombreux leaders occidentaux, certains appelant l'Iran à ne pas chercher à exploiter cette situation à d'autres fins, ni à étendre le conflit au-delà de Gaza. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, tout en reconnaissant les inquiétudes légitimes d'Israël pour sa sécurité, s'est dit profondément bouleversé par l'annonce des autorités israéliennes du siège complet de la bande de Gaza. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a de son côté accusé Israël de génocide contre les Palestiniens après l'annonce de ce siège complet. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lui mis en garde Israël contre une attaque indiscriminée de civils à Gaza qui ne ferait qu'accroître les souffrances et renforcer la spirale de la violence dans la région. L'Allemagne, les États-Unis, la France, l'Italie et le Royaume-Uni ont pour leur part publié un communiqué commun lundi soir dans lequel les cinq puissances déclarent qu'elles soutiendront les efforts d'Israël pour se défendre et condamnent sans ambiguïté possible le Hamas.
L'Union européenne suspend son aide au développement en faveur des Palestiniens après l'attaque du Hamas contre Israël. L'organisation décide de réévaluer ses programmes, provoquant la surprise, voire la colère de certains des 27 États membres, dont l'Espagne. Alexandrine Hologno nous en dit plus.
L'annonce a surpris certains membres de l'UE. La Commission venait à peine de préciser qu'une décision de réexamen de l'aide européenne aux Palestiniens serait soumise ce mardi au ministre des Affaires étrangères des 27. En réaction, le gouvernement espagnol a exprimé son malaise et son désaccord. Selon le ministère des Affaires étrangères à Madrid, le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Álvarez, a appelé le commissaire européen Olivier Varelli pour protester contre cette décision jugeant qu'elle devait d'abord faire l'objet d'une discussion. L'Irlande, de son côté, dit avoir formellement demandé à la Commission de préciser la légalité de sa décision. 2 millions de gens habitent Gaza. Ce sont aussi des otages du Hamas. Avec ces méthodes-là, on les pousse dans les bras des terroristes, a commenté le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères Jean Hasselborn. L'Union européenne, plus important soutien financier aux Palestiniens, a un budget de 2,2 milliards de dollars entre 2021 et 2024 pour financer des projets, notamment dans l'éducation ou la santé.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les opérations pour le retrait des soldats français présents au Niger commenceront ce mardi sous escorte de l'armée nigérienne, ont annoncé dans un communiqué lu à la télévision nationale Télé-Sahel les militaires au pouvoir. Le communiqué ne précise pas la destination de ce premier convoi. Ce retrait des quelque 1400 soldats français avait été exigé par les généraux nigériens rapidement après leur arrivée au pouvoir fin juillet. Et le président français Emmanuel Macron avait annoncé leur départ fin septembre. Par ailleurs, l'Algérie a annoncé lundi sursoir à sa médiation censée trouver une sortie de crise au Niger jusqu'à l'obtention des clarifications jugées nécessaires au sujet de la mise en œuvre de la médiation algérienne au Niger. Au Mali, le pouvoir prévoit de recevoir en novembre le contrôle du camp de l'ONU à Kidal dans le nord. C'est un des grands enjeux de la confrontation ranimée entre l'État central et la rébellion Touareg. Yacouba Ouédra Ogo.
Après la cession par la MINUSMA de ces camps à Ogossagou, Ber, Gundam et Menaka, une deuxième phase va commencer, a indiqué Madou Diallo, directeur des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères. Il a affirmé que les rétrocessions vont concerner d'abord pour le mois d'octobre les camps de Tessalit, d'Aguilot et de Douenza. Ensuite, pour le mois de novembre, ça va être les camps d'Ansongo, de Mopti et de Kidal. Il ne restera plus que les emprises onusiennes de Gao, Tombouctou et Bamako. La MINUSMA est censée quitter le Mali d'ici au 31 décembre. La ville de Kidal est le fief de la rébellion à dominante Touareg qui a repris les hostilités contre l'armée nationale. La MINUSMA a commencé en août à céder aux autorités maliennes ses camps dans le nord. Depuis, des groupes armés qui s'étaient soulevés en 2012, puis avaient signé un accord de paix avec le gouvernement en 2015, ont repris les armes, réclamant le contrôle de ces camps. Une importante colonne de l'armée est partie le 2 octobre de Gao en direction de Kidal. Après avoir essuyé plusieurs attaques, elle est entrée en fin de semaine à Anéfis, à environ 110 km de Kidal.
Les combats se sont intensifiés hier lundi dans l'est de la République démocratique du Congo où l'armée se redéploie dans des zones d'où elle avait été chassée en début d'année selon des sources locales concordantes. Fatouma Kalala Alimassi.
Les affrontements se déroulent dans des zones où plusieurs milliers de soldats d'une force d'Afrique de l'Est déployés en début d'année sont censés assurer une zone tampon entre les belligérants. Après 6 mois de calme précaire, entrecoupé d'attaques, des combats ont repris début octobre entre des groupes armés locaux et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans les territoires de Masisi et Rutshuru de la province du Nord Kivu. Au moins 20 civils ont été tués et plus de 30 autres blessés depuis le 1er octobre et la résurgence de violents affrontements entre groupes armés indique lundi la coordination humanitaire des Nations Unies en RDC. Toujours selon OCHA, plus de 84 700 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile et l'accès humanitaire reste gravement restreint en raison de l'intensification des combats.
La justice kényane, saisie par l'opposition, a temporairement suspendu lundi un projet d'envoi de policiers en Haïti dans le cadre d'une mission onusienne de sécurisation de ce pays en proie à la violence des gangs. Le point avec Nanit Talani.
La décision du gouvernement kényan d'envoyer un millier de ses policiers dans une mission multinationale en Haïti à la demande de l'ONU a suscité ces derniers jours de nombreuses interrogations au Kenya. Ses détracteurs, notamment les adversaires du président William Ruto, la jugent dangereuse et inconstitutionnelle. Saisie par l'avocat et opposant Ekuru Aukot, la haute cour de Nairobi a estimé lundi que la requête de l'opposition soulève des questions importantes pour le pays et l'intérêt du public qui requiert d'être examiné en urgence. Le juge Enoch Mwita a donc émis une ordonnance conservatoire suspendant le déploiement de policiers en Haïti ou dans tout autre pays jusqu'au 24 octobre. M. Aukot dénonce la volonté de déployer des policiers kényans à l'étranger au moment où le pays peine à lutter contre l'insécurité à l'intérieur de ses frontières. Les opposants à cette mission soulignent également que les policiers kényans pourraient y être perçus comme une force d'ingérence. Le gouvernement haïtien, confronté depuis des années à la violence croissante des gangs qui contrôlent certaines parties du pays, demande depuis un an une mission pour rétablir l'ordre.
La Minute Écho, Alexandrine Rollognon.
Les conséquences de l'escalade de la violence entre Israël et Gaza sur l'économie. Les cours du pétrole et les prix du gaz se sont envolés hier après l'offensive surprise ce week-end du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël. Les compagnies aériennes internationales ont aussi suspendu ou réduit les vols à destination ou en provenance de Tel Aviv, déclarant qu'elles attendaient que les conditions de sécurité s'améliorent. Le gouvernement égyptien, qui lutte contre une inflation record, a convenu avec les producteurs privés et les détaillants de réduire les prix des aliments de base de 15 à 25% à partir de samedi et de les exempter de droits de douane pendant 6 mois. L'inflation globale pour le mois de septembre, qui doit être annoncée, devrait atteindre un niveau record avant l'élection présidentielle prévue à la mi-décembre. La Zambie envisage d'émettre des obligations vertes et de réglementer la production de crédit carbone. Selon son ministre de l'économie verte et de l'environnement cité par l'agence Ecofin, le ministre, qui s'exprimait lors d'une conférence organisée à Lusaka, a également indiqué que 30% des fonds qui devraient être levés grâce à l'émission des obligations vertes seront alloués à des initiatives visant à préserver la biodiversité.
Merci Alexandrine. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les pays qualifiés pour la prochaine CAN ont les yeux tournés vers Abidjan.
Oui, la capitale économique de la Côte d'Ivoire accueille ce jeudi 12 octobre le tirage au sort de la prochaine CAN prévue en janvier et février prochain. Notre consultant sportif Amine Birouk sera du côté de la Lagune Ébriée, mais bien avant, il revient sur cet événement à venir et sur le match amical prévu ce week-end entre le pays hôte de la CAN, la Côte d'Ivoire et le Maroc.
Abidjan is the place to be. Je pense que tout au long de la semaine, on ne parlera que de la capitale économique de la Côte d'Ivoire avec le tirage au sort aujourd'hui de la phase de groupe de la Champions League féminine. Mais bien évidemment, tous les regards sont tournés vers le tirage au sort de la CAN, de la vraie, de la seule, de l'unique. Côté marocain, on attend avec beaucoup de sérénité ce tirage. Les Lions de l'Atlas, emmenés par Walid Regragui, vont partir en Côte d'Ivoire pour s'acclimater, prendre leur repère à travers un match amical disputé samedi au stade Félix Houphouët-Boigny face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Et ce déplacement en Côte d'Ivoire aura le mérite de voir l'équipe du Maroc sortir un peu de cette zone confort et puis rencontrer un des prétendants à la CAN, puisque le pays organisateur aspire à un troisième succès après les sacres de 1992 et de 2015.
Toujours en amical, le Sénégal, lui, va affronter le Cameroun.
Ce sera le 16 octobre à Lens, en France, pour cette rencontre amicale. Le sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, a convoqué 26 joueurs. Cette liste, presque identique à celle contre l'Algérie, est marquée par l'arrivée de Mamadou Sané et Noah Fadiga, fils de l'ancien Lion, Khalidou Fadiga.
Nous jouons face en Grande Afrique, à son sein de grosses individualités. Ça sera un match très important et comme nous, on a toujours l'habitude sur les matchs importants de faire de notre mieux.
et surtout de faire de très 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 bonnes choses. On a l'intention en tout cas sur ce match-là de faire aussi de très bonnes choses. Contre l'Algérie, il y a eu des choses très intéressantes qui ont été faites, mais il y a aussi des petites choses que nous devons progresser. Et à travers ce match-là contre le Cameroun, ce que j'attends, c'est qu'on puisse réagir déjà par rapport à la défaite contre l'Algérie et à nouveau recommencer encore à gagner.
Aliou Cissé, coach du Sénégal au micro d'Amdinsi.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Face au conflit meurtrier en cours entre le Hamas et Israël, Abu Dhabi a appelé à intensifier les efforts diplomatiques pour éviter une confrontation régionale plus large. Et les ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe se réunissent demain au Caire, en Égypte. Eric Manirakidza a joint à Dakar l'analyste et spécialiste de l'Union africaine, Ibrahim Khan, qui partage ses analyses et perspectives sur le rôle africain dans cette situation complexe au Moyen-Orient.
Ce qui se passe actuellement en Israël et en Palestine, c'est un total désastre. Désastre humain, désastre matériel, et je pourrais même ajouter un désastre moral. Parce que ce soit les Israéliens ou les Palestiniens qui ont perdu leur vie, c'est d'abord des humains. Ils avaient le droit, comme nous tous, le droit de vivre. Mais cette région du monde a une histoire, et c'était l'histoire de cette région du monde qui explique aujourd'hui ce qui s'est passé. Nous autres Africains, nous avons vécu à travers notre histoire le pire moment de notre existence. Nous avons traversé toute forme de violation du genre humain, de déni de l'existence même du noir comme. Mais je pense que ce qui est en train de se passer actuellement vraiment atteint les extrêmes. Si vous jetez un coup d'œil sur la réaction des États africains, aujourd'hui c'est un choc total. Pratiquement en dehors de quelques États, pratiquement tout le monde est silencieux parce que tout le monde ne comprend pas ce qui est en train de se mener actuellement dans la zone. Vous avez deux réactions qui condamnent fermement l'acte posé par Hamas, c'est le Togo et le Kenya. Vous avez des États comme l'Algérie qui soutiennent fermement la cause palestinienne, et vous avez le reste qui demande à ce que les gens reviennent à la raison, à ce qu'il n'y ait pas de violence et à ce qu'un dialogue se renoue pour qu'on trouve un début de solution à cette situation-là qui n'a que trop duré. Tellement les extrémistes aujourd'hui commencent à avoir raison de tout ce qui sont raisonnables.
Quelles sont les principales revendications et objectifs du Hamas et d'Israël dans ce conflit?
Peut-être que c'est bon de commencer par Israël qui défend et qui a toujours défendu le droit à l'existence d'Israël. Mais l'histoire des relations internationales le montre, la paix pour un dépend aussi de la paix pour l'autre. Je veux dire par là que pour qu'Israël puisse vivre en paix, qui puissent vivre en toute quiétude, il faudrait aussi que les Palestiniens vivent en paix et vivent en toute quiétude. À un moment donné, avec Isaac Rabin et Yasser Arafat, les accords d'Oslo, on avait pensé qu'on avait atteint vraiment un point où les raisonnables de chaque camp s'étaient entendus pour qu'il y ait une solution de deux États qui vont vivre paisiblement. Mais vous connaissez la suite. Prenez la situation d'aujourd'hui. La zone de Gaza, c'est une zone de 100 km² où il y a 2 200 000 personnes qui vivent, mais dans une situation indescriptible.
Et que peut faire l'Afrique dans cette situation? Est-ce que les Africains ou l'Union africaine en tête, est-ce qu'ils ont les moyens de faire pression sur Israël ou sur le Hamas pour cesser ces violences et trouver une issue durable?
Vous posez là une intéressante question. Les interventions africaines dans ce conflit datent des années 70. Et à la tête de l'initiative africaine de l'époque, vous aviez Offoué de Boigny, vous aviez Léopold Sédar Senghor, et si mes souvenirs sont exacts, vous aviez aussi le président du Cameroun de l'époque. Et ils avaient fait le déplacement pour aller en Israël, pour aller en Égypte, pour aller en Syrie et discuter avec les différents dirigeants de l'époque. Je me rappelle que Golda Meir, à l'époque, était premier ministre. Aucune solution n'a été trouvée. Donc l'Afrique, je peux dire, discute avec les deux parties, mais est-ce que l'Afrique a le poids qui lui permet de pouvoir peser sur la crise entre Israël et l'Afrique? Peut-être que non. Pour que la paix revienne, on ne peut pas se passer de deux États.
L'analyste et spécialiste de l'Union africaine, Ibrahima Kan. L'attaque surprise lancée par la branche armée du groupe palestinien Hamas contre Israël et ses forces armées marque un nouveau pic de violence et de destruction dans le cadre d'un conflit qui fait rage depuis trois quarts de siècle. Vu d'Afrique, comment ce conflit est-il perçu et quels sont les moyens d'en sortir? Voici quelques réactions à Libreville. Avec notre correspondant Ismaël Obiangze.
On n'est pas dans une guerre traditionnelle, on est dans une guerre asymétrique. Donc d'un côté, l'armée israélienne qui est super, super formée, super équipée, et de l'autre côté, ben, les peuples palestiniens qui n'ont que leur foi. À partir de ce moment-là, tant qu'on n'a pas réglé le problème des territoires et de leur juste répartition, ben ça va durer toujours. Ça va ressembler à une malédiction biblique, mais ça va durer toujours.
Ce qu'on dit en réalité, c'est qu'il n'y a pas un État de trop dans le Proche-Orient, mais il manque un État. D'ailleurs, ça rejoint mon prédécesseur qui disait qu'il faut deux États. Il faut clairement que l'on reconnaisse les deux États et qu'en réalité, chaque État puisse exercer sa souveraineté.
Avec un recul, je pense que la résolution de ce conflit ne peut pas être faite par médiation politique ou diplomatique, mais doit être faite sur le plan spirituel. Donc ça ne me surprend pas.
Comment spirituel?
Spirituel parce que la guerre entre, comme je le disais, entre la Palestine et l'Israël est une question d'occupation de terre. Or, cette terre, selon les Juifs, elle leur a été promise par Dieu alors qu'ils étaient en Égypte, en déportation. Mais en arrivant, ils trouvent un peuple qui est déjà installé. Alors, qui occupe la place de qui? Les uns disent que c'est une terre qui nous est promise par Dieu, donc qui se renvoie vers le divin. À partir de ce moment-là, ce qui est divin ne peut pas être réglé humainement. Voilà pourquoi j'estime que c'est un conflit qui doit être réglé sur le plan spirituel.
Bah, écoutez, je pense que la réaction ou la position des Palestiniens aujourd'hui, elle est légitime. Parce que longtemps, leurs territoires ont été occupés par les Israéliens. Et je crois que c'est une guerre qui date depuis des années. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, elle va cesser. Donc on peut comprendre légitimement comprendre la position des Palestiniens aujourd'hui à l'égard des Israéliens. Donc pour moi, j'ai dit que c'est une bonne chose.
Est-ce que ce n'est pas aussi l'échec de la politique de l'ONU à travers le monde? L'ONU qui devrait jouer le rôle de gendarme du monde.
Mais effectivement, parce que l'ONU ne fait pas son travail. Tous les secrétaires généraux qui ont succédé à la tête des Nations Unies, au sein des Nations Unies, tous ont échoué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le nouveau secrétaire général, on ne sait pas ce qu'il fait. Je crois qu'effectivement, ce que vous dites est vrai, c'est l'échec, c'est le travail inachevé des Nations Unies.
Au Togo, le conflit au Proche-Orient entre le Hamas et Israël est aussi commenté. Si les uns condamnent la violence sur les civils, certains appellent à une solution à deux États pour en finir avec cette escalade de Lomé, notre correspondant Kossi Oussou.
À Lomé, l'attaque du Hamas contre l'État d'Israël ne laisse pas indifférent. Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, condamne cette violence contre des populations civiles.
Cette attaque est d'une violence extrême contre l'Israël avec son cortège de morts. Je pense bien quand même que c'est inadmissible, c'est inacceptable. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est criminel et ce que nous condamnons, parce que nous estimons que la violence n'a jamais réglé de problème. Et dommage que ce soit les populations civiles qui sont victimes.
Pour Firmin, responsable d'un centre de géostratégie, les violences de ces derniers jours sont inhérentes à la volonté des Palestiniens de vivre dans un État propre.
Le problème qui se pose fondamentalement, c'est un problème de territoire. Les Palestiniens veulent avoir leur territoire à eux. Ils veulent avoir, quand on parle d'État, on parle du pouvoir central, on parle de la population, mais on parle aussi du territoire. Et Israël doit laisser les Palestiniens avoir leur territoire. Donc il faut que les Nations Unies se prononcent sur le sujet. Aujourd'hui, la France condamne, la Grande-Bretagne condamne, l'Allemagne condamne, mais le problème fondamental n'est toujours pas résolu. Les gens veulent avoir leur territoire. Il faut leur accorder.
pour que la violence cesse entre Israël et la Palestine, Jerry Tama estime qu'il faut retourner aux frontières tracées par les Nations Unies en 1947.
Ma position par rapport à ce conflit a toujours été claire. Il faut absolument aboutir à deux États, un État palestinien, un État israélien. Et pour ce faire, il faut que les bonnes personnes, sont réellement épris de paix, prennent le pas sur toutes les personnes extrémistes, sur toutes les personnes fondamentalistes qui attisent ce conflit-là. Il faut que ce soit du côté israélien, qu'on mette un terme à la colonisation, qu'on revienne aux frontières de 1947, quand l'ONU a fait la partition de cet État, et que la Hamas aussi reconnaisse que la solution passe par la création d'un État israélien.
Sur le réseau social X, le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, a condamné fermement l'attaque terroriste de Hamas contre des civils israéliens. Nous encourageons Israël et le Hamas à continuer le dialogue pour régler les différends. Nous demandons la libération des otages. La priorité est la paix en Israël, en Palestine et dans la région. Nous sommes du côté de la paix, a dit Robert Doucet. Kossi Wousou, Lomé pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, le Moyen-Orient en ébullition après l'attaque surprise du Hamas qui a fait des centaines de morts en Israël. L'État hébreu a riposté en pilonnant Gaza et en imposant un siège complet de ce territoire sous le contrôle du groupe militant palestinien. Les appels à la désescalade et au dialogue ne sont pas pour l'instant suivis d'effets sur le terrain. Comment en est-on arrivé là? Quel risque pour la région et le reste du monde? Comment mettre fin au conflit israélo-palestinien? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com en rediffusion samedi et dimanche.
Clôture dimanche du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle du 20 décembre en RDC. Pas de prorogation, dit la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. En attendant la publication de la liste provisoire des candidats retenus, 28 personnalités ont annoncé leur candidature. À Kinshasa, opinions divergentes sur les candidats. Les détails avec Biobe Malenga.
Certaines candidatures ne sont pas une surprise, comme celle du président sortant Félix Tshisekedi qui brigue un second mandat de 5 ans, ou encore celle de Martin Fayulu, candidat malheureux du dernier scrutin. Dans la ville de Kinshasa, les populations ont des opinions différentes sur les candidats à la présidentielle.
Moi, c'est Omega Dumasipura. 24 candidatures, c'est beaucoup plus par rapport aux élections précédentes. J'ai aussi remarqué la présence des jeunes parmi eux et celle des organisations des sociétés civiles comme M. et Dr. Mukwege et Floribert Azulumi Bembe. Et au moins, ils connaissent les problèmes des citoyens ordinaires. Et cela prouve que les peuples veulent des réformes.
Je suis M. Onassis Muto Momolopoué. J'ai vu des candidats, on dirait à mon humble avis, que ce poste du président de la République est en train de se démystifier. Il y a même des candidats pour rire. J'accepte parce que c'est léger démocratique.
Cependant, des analystes politiques affirment que la pléthore des candidats se réclamant de l'opposition pourrait être un facteur déterminant dans l'issue du scrutin de décembre. Pour l'analyste Félix Walassa, l'opposition devra s'organiser si elle veut avoir une chance de réaliser l'alternance.
Si vous regardez Moïse Katumbi, c'est un poids lourd. Docteur Mukwege, un poids lourd. Même Matata Ponyo, aussi un poids lourd. Quelqu'un qui a une crédibilité, qui a déjà travaillé comme premier ministre. Mais ils sont nombreux. À ce moment-là, ils vont amoindrir leurs chances de gagner et de gagner le pouvoir en place. Vous voyez? Donc, ils devraient se concerter tous pour donner une cartouche qui doit faire face à Félix, tu sais ce qu'il dit? Parce que sinon, il faut risquer de pleurnicher, soit pendant les élections, soit après les élections.
La RDC organise des élections générales le 20 décembre prochain pour se choisir un président ainsi que des parlementaires provinciaux et nationaux. Le défi des prochains quinquennats restera la restauration de la sécurité, surtout dans l'Est, et l'amélioration des conditions de vie de la population dans ces pays où 70% des habitants vivent en dessous du seuil de la pauvreté selon la Banque mondiale. Biobe Malinga pour VOA Afrique, Kinshasa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi au micro. Idrissa Sedouya, à la mise en onde de Fatouma Kalala Alimassi, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, X, l'ex Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.